Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Mendès France. Donc ce soir, je suis ravie d'accueillir Corentin Gibert, qui est un chercheur précaire, donc post-doctorant, au laboratoire Palévo-Prime donc de l'Université de Poitiers. Donc c'est un paléontologue, mais ce soir, il ne va pas vous présenter les recherches qu'il mène donc, au sein de ce laboratoire, mais il va vous parler d'une de ses passions, qui est donc la nature, paléontologue, naturaliste et ses proches. Donc je vais tout de suite lui laisser la parole pour vous présenter donc, son conférence.
Merci Christine. Donc en effet, je vais vous expliquer un petit point de vue différent sur la nature. Cette conférence s'appelle Collectif, coopération, empathie, la face cachée de la nature. Puis je vais commencer par vous expliquer pourquoi je fais cette conférence. En fait, depuis que je suis tout petit, j'adore les reportages animaliers. J'en regarde des tonnes. Et l'impression que je voyais tout le temps dans les reportages animaliers, c'était principalement des relations de proie-prédateurs. Donc avec des grands prédateurs qui chassent des proies, parfois aussi des relations de compétition entre des mâles. Et j'ai eu envie d'avoir une approche un peu plus scientifique de ça, essayer de confirmer mon impression. Et donc pour cela, je suis allé sur Internet, j'ai cherché des sites qui référencent des documentaires. Et je suis allé dans donc documentaires animaliers, nature, et j'ai aspiré sur le site les titres de 900 documentaires différents. Et j'ai fait donc un nuage de mots, ou en fait un histogramme où on va voir les mots qui apparaissent le plus souvent. Et donc dans ces titres, les mots qui apparaissent le plus souvent, ça va être de haut en bas, proie, combat, survivre, nourriture, la chasse, géant, gros, prédateur, tuer, manger, la survie et les chasseurs. On trouve deux mots qui s'opposent à cette vision, on trouve famille et aide. Donc à partir de là, j'arrive à confirmer cette impression. Et ce qui se dégage de ma vision de tous ces reportages animaliers, c'est une vision très commune, en fait, qu'on a tous de la nature. C'est que, cette petite maxime la résume par la loi de la jungle, ou la loi du plus fort. Si on va chercher dans le dictionnaire, on trouve la loi de la jungle. Qu'est-ce que c'est ? C'est le code de la survie de la vie dans la jungle, généralement utilisé en référence à la supériorité de la force brut ou de l'intérêt personnel dans la lutte pour survivre. On va trouver tout un ensemble de maximes et de citations par des grands auteurs, des grands philosophes occidentaux qui vont confirmer à la fois soit une scission très importante entre l'homme et la nature, soit confirmer cette vision dure, violente, compétitive de la nature. Donc on a le grand classique qui remonte au grec, l'homme est un loup pour l'homme, réutilisé par Hobbes au XVIe qui va nous parler de l'état de nature chez l'homme et qui va rajouter « l'homme est un loup pour l'homme, mais l'homme peut aussi être un dieu pour l'homme ». Donc cette différence, en fait, il utilise « l'homme est un loup pour l'homme » pour parler de notre nature profonde. Ce qui vient de la nature, c'est notre capacité à nous opposer, à être en compétition les uns contre les autres, à résoudre tous nos conflits de manière violente. Et l'homme peut être un dieu pour l'homme. C'est une façon de mettre en exergue toutes les choses comme la bonté, la clémence, le pardon, le partage, qui sont pour lui le résultat de la culture humaine. Donc on a toute une brochette ici qui vont confirmer cette impression. Par exemple, on a Schopenhauer qui nous dit « l'homme, au fond, est une bête sauvage, une bête féroce ». Marx, par exemple, quand il nous parle du libéralisme, il utilise une vision violente de la nature. Il nous dit « la liberté, c'est le renard libre dans le poulailler libre ». On trouve Adam Smith de l'autre côté du spectre politique qui nous dit « ce n'est pas de la bienveillance du boucher que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'il apporte à la recherche de son propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, c'est là qui fait la scission, mais à leur égoïsme. » Donc l'égoïsme ne vient pas, n'est pas quelque chose d'humain, n'est pas dans l'humanité, mais au contraire dans la nature profonde de l'homme. Même Rousseau, qui a une vision beaucoup plus positive de la nature, quand il va parler du bon petit sauvage ou du paradis perdu, il instaure cette scission profonde. Parce qu'à partir du moment où on crée la civilisation, pour lui, on est dans le péché, et donc on quitte cet état de nature. Et puis on peut ranger toutes les religions du livre au même endroit. Elles vont toutes instaurer une scission très profonde, et qui d'ailleurs va nous mener normalement, nous, au paradis, et les autres animaux qui partagent eux aussi la vie sur Terre n'iront pas. J'ai mis une petite couronne à Descartes, parce que parmi mes collègues scientifiques, c'est lui le king, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se pense tous très rationnels, rationalistes jusqu'au bout. La vision de Descartes qu'il avait de la nature, c'est que le jour où on accumulera suffisamment de connaissances, nous nous rendrons maîtres et possesseurs de la nature. Donc pour résumer, notre vision de la nature et plus profondément de notre nature, c'est que ce que nous apporte en tout cas notre nature, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle, et on va utiliser parfois, même si on fait ça avec beaucoup de pincettes aujourd'hui parce qu'on sait les conséquences des arguments naturels aujourd'hui, mais on va l'utiliser que ce soit en famille, au travail, en classe, en société, partout va régner cette compétition. Et même si on n'ose pas toujours l'assumer, elle s'appuie sur notre vision profonde de ce que sont les rapports naturels. Alors évidemment, il ne faut pas sortir de cette conférence, s'il vous plaît, en ayant l'idée que la compétition n'est pas une force majeure de l'évolution des espèces, ou même d'explication des interactions entre les espèces. On va retrouver à toutes les échelles le rôle de la compétition dans la nature. Ici, je vous donne deux exemples de répartition spatiale. On a dans une petite boîte de pétri une levure seule ou deux levures qui vont être cette fois-ci en compétition pour les ressources disponibles. Par exemple, à l'échelle d'une forêt tout entière ou d'un arbre, on aura ici deux lichens qui ont chacun leur niche écologique et qui vont exclure l'autre espèce moins compétitive. La compétition, elle peut aussi nous expliquer à expliquer les populations animales. Ici, c'est un grand classique. On a en rouge la population de lynx et en bleu la population de lapin boréal, qu'on peut résumer par plus il y a de lapins, plus il y a de lynx. Et plus il y a de lynx, moins il y a de lapins. Moins il y a de lapins, moins il y a de lynx. Et moins il y a de lynx, plus il y a de lapins. Et puis je peux faire ça encore 10 minutes. Et puis, je vous dis, c'est évidemment une force fondamentale de l'évolution des espèces. Ici, par exemple, moi en tant que paléontologue, en paléontologie, on explique l'explosion, qu'on appelle l'explosion cambrienne, la mise en place de très nombreuses espèces et de très nombreux groupes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, il y a 500 millions d'années. Et on estime, l'hypothèse la plus en vogue, est que apparaissent à ce moment-là des relations assez similaires à aujourd'hui de proie et de prédation. Et donc les proies vont se mettre à obtenir soit tantôt de nouvelles, par exemple, imaginons de nouvelles carapaces, de nouvelles manières d'esquiver un prédateur, de se cacher. Et en réponse, les prédateurs vont avoir de nouveaux des yeux plus performants pour les retrouver ou des mâchoires plus puissantes pour briser ces carapaces. Mais alors la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut raconter autre chose sur la nature et donc sur notre nature ? Eh bien, si je fais cette conférence, c'est justement parce que j'ai toujours eu un sentiment paradoxal par rapport à ça. Entre les reportages animaliers que je vous montrais au début et toute cette collection de titres plus sanglants les uns que les autres, moi, mais comme vous, qui possédez des animaux de compagnie, etc., vous avez une impression différente et les gens racontent autre chose sur leurs animaux. Ils sont capables de percevoir tantôt leurs émotions, leurs intentions. Et parfois, ils repèrent des comportements extrêmement intelligents et complexes. Moi, j'ai deux histoires comme ça. Par exemple, j'avais un chien quand j'étais petit qui ressemblait vraiment à cette petite boule de poils toute noire. Là. Et lui, il savait prendre le bus. Alors bon, il ne prenait pas le bus, puis le métro, puis l'avion, etc. Il y avait juste un bus dans mon village. Et il avait compris qu'il fallait, s'il montait dans le bus au centre du village et qu'il sortait au dernier arrêt, bah, il était à côté de la maison. De la même idée, ici vous voyez deux orang-outans de la ménagerie de Paris. Le plus petit c'est Toubo, avec sa maman Nénette à côté. Eh bien, ma sœur qui est illustratrice allait tous les jours à la ménagerie de Paris pour observer ces animaux et les dessinait tous les jours. Et au bout d'un moment, en fait très rapidement, Toubo s'est pris d'amour pour ma sœur et il se collait à la grille et il regardait tout ce qu'elle faisait, il lui faisait quantité de bisous et de câlins à travers la grille et il adorait se voir être dessiné sur son carnet. Aussi, les reportages animaliers ont changé, il faut être honnête. Ces 10 dernières années à peu près, si vous regardez les reportages de la BBC, on voit bien d'autres choses, bien d'autres comportements, des comportements d'entraide, des collectifs et puis des comportements d'une grande intelligence. Mais aujourd'hui, on vit pour le meilleur ou pour le pire à une époque où tout le monde a une caméra HD dans la poche, parfois même tout le temps dans la main. Et donc, au lieu d'aller filmer des choses, parce qu'il faut bien comprendre qu'un reportage animalier, c'est pas un truc qu'on fait en claquant des doigts. C'est des types qui se réunissent, ça coûte des millions, on envoie des équipes avec des caméras sur le terrain durant des mois. Donc l'image qu'on a de la nature, l'image qu'on voit à la télévision de la nature, c'est l'image qu'on a déjà, c'est celle qu'on va chercher à filmer. Mais aujourd'hui, on filme en fait n'importe quoi, c'est le cas de le dire. Mais même parfois des choses extrêmement intéressantes dans la nature. Bah, on va se retrouver avec des vidéos comme ça sur Internet d'un petit caneton qui nourrit des carpes avec du pain. Je vous invite à chercher, ça c'est vraiment très touchant, beaucoup de vidéos de grands animaux marins qui vont tourner autour de plongeurs jusqu'à ce que ceux-ci les débarrassent de filets de pêche, qui les enserrent. On voit même des choses extrêmement étonnantes, comme des pies et des corvidés qui restent des heures durant autour du cadavre de l'un d'eux. Ou bien, c'est un peu défilé, bon là on voit une mère chat qui va sauver son petit qui débarroule. Avant on voyait un chien qui allait chercher dans un lac un petit fond en train de se noyer, ou par exemple un dauphin qui fait du toboggan sur une baleine. Bon, encore une fois, moi je veux faire un retour à l'aspect scientifique. Et donc, est-ce que les sciences naturelles nous disent quelque chose de nouveau là-dessus aujourd'hui ? Eh bien, ça m'a énormément rassuré. C'est que oui, les sciences modernes nous disent quelque chose, en tout cas l'éthologie, la biologie, nous disent des choses nouvelles aujourd'hui sur les relations entre les espèces ou sur l'intelligence animale. Et un vaste... Il existe énormément de littérature vulgarisée aujourd'hui pour essayer d'en apprendre plus sur la nature. Et c'est ce que je vais vous exposer durant cette première, enfin durant tout le reste de la conférence. C'est des exemples, des anecdotes qui viennent de cette littérature. Donc on va commencer par exemple avec les fourmis du genre Pseudomyrmex. Ici, c'est plusieurs espèces qui ont le même comportement. En fait, elles vont s'installer à l'intérieur, elles existent dans les forêts tropicales en Asie et en Amérique latine. Elles s'installent à l'intérieur d'arbres qui sont creux. Et uniquement quand l'arbre est colonisé par des fourmis, l'arbre va se mettre à fabriquer des petites excroissances jaunes à la base de ses feuilles, très sucrées et qui nourrissent les fourmis. Donc c'est le gîte et le couvert en gros. En échange de ça, les fourmis vont adopter des comportements de défense de leur colonie. On va parler de mutualisme quand c'est du donnant-donnant en biologie. Et donc là par exemple, on voit des fourmis en train de couper une plante parasite, une vigne qui est en train de s'accrocher à leur arbre colonie. Ou par exemple de chasser les prédateurs qui essaieraient de boulotter les feuilles de cet arbre. On reste chez ces fantastiques animaux sociaux que sont les fourmis. Ici, on est chez une autre espèce, un autre groupe d'espèces, les fourmis coupe-feuilles. Donc, elles commencent leur journée en montant sur des brins d'herbe, elles les tranchent. On voit qu'elles tranchent directement la branche sur laquelle elles sont assises d'ailleurs. Ensuite, elles tombent à terre, elles ramènent comme une petite armée, ses feuilles et ses brins d'herbe coupés jusqu'à la colonie. Et qu'est-ce qu'elles font avec ? Elles illustrent une relation, cette fois-ci, pas uniquement mutualiste, mais de symbiose, quand deux espèces sont interdépendantes. Ici, elles vont couper en plus petits morceaux les brins d'herbe et nourrir un champignon. C'est ce que vous voyez en blanc. Donc ces fourmis, elles sont cultivatrices. Et elles nourrissent l'intégralité de la colonie avec ces champignons. Pour vous montrer, ici, c'est une termite qu'on a remplie, j'imagine, de béton ou quelque chose comme ça pour pouvoir la dévoiler, de fourmis coupe-feuilles. On voit la taille de l'édifice. Et en dessous, ce que vous voyez, c'est des conduits d'aération. Parce que si vous faites pousser un champignon sous terre, il va consommer tout l'oxygène et rejeter du CO2. Et donc, il faut bien pouvoir aérer l'endroit si on veut que ça reste vivable. Ensuite, je vous montre juste quelques autres exemples d'animaux eusociaux. On parle d'animaux eusociaux, pour les animaux que vous connaissez principalement qui sont eusociaux, ça va être les fourmis évidemment et les abeilles. Classiquement aussi les termites sont connus, mais il n'y a pas que des insectes qui adoptent ce mode de vie. On trouve aussi des crevettes eusociales. Donc eusocial, ça veut dire qu'il y a un seul individu qui va se reproduire dans la colonie, comme la reine des fourmis. Et les autres ne se reproduisent pas. Donc on va trouver les crevettes Sinalpheus qui font ça. Aussi deux espèces de mammifères, les rataupes, où là on a une femelle qui se reproduit et les autres sont castrées chimiquement. Et en bas, là, on a aussi un petit scarabée. Si on change de milieu, on va dans l'océan et on s'intéresse aux gobies et à la crevette pistolet. Donc la crevette pistolet, elle est vachement forte pour faire des terriers. Par contre, le gobie, lui, il ne sait pas bien faire ça. Mais la crevette, elle a besoin d'un allié, en fait, justement. Elle va vivre dans son terrier avec le gobie. Et le gobie, avec ses grands yeux placés sur les côtés, il est bien plus capable que la crevette de repérer les prédateurs. Lorsqu'un prédateur approche, le gobie va bouger, va vibrer, et la crevette va le ressentir avec ses antennes, et elle va courir se planquer dans son terrier. Dans l'océan, on ne peut pas passer à côté des relations qu'on trouve au sein des récifs, qu'on appelle stations de nettoyage. Là, on va voir plein d'animaux qui vont s'arrêter à certains endroits du récif et qui vont être débarrassés de leurs algues ou de leurs parasites par des petites crevettes ou par de petits poissons qui pourraient être leur proie habituellement. Mais ici, ils sont dans une relation apaisée, donc donnant-donnant. Je m'approche, je vous donne à manger et vous me nettoyez. Ça marche avec les plongeurs aussi. Alors ça, c'est une image d'Épinal des reportages animaliers. Par contre, la grande migration du Serengeti avec les gnous et les zèbres côte à côte. On sait pourquoi ils vivent ensemble, parce qu'ils ne sont justement pas en compétition. Même s'ils sont tous les deux des herbivores, le gnou, le zèbre va se nourrir du haut des herbes hautes, tandis que le gnou se nourrit des herbes basses. Et ils se complètent, sachant que le gnou a un excellent odorat pour repérer les points d'eau, alors que le zèbre, lui, a une excellente vue pour repérer, par exemple, les prédateurs. Alors, je vous ai exposé plusieurs cas entre des espèces, mais il faut bien garder à l'esprit que c'est surtout même à l'intérieur des espèces que se passe la coopération ou l'entraide. On trouve évidemment chez tous les mammifères un grand soin apporté aux petits et à l'éducation des petits. Donc tout le groupe des mammifères est défini par un certain niveau de collectif, en tout cas. En ce moment, à Poitiers, surtout quand on travaille sur le campus, on voit des grands nuages d'oiseaux. Il est démontré que plus un groupe d'oiseaux est grand, plus moins il sera attaqué par des prédateurs, ou en tout cas moins il y aura de pertes à l'intérieur du groupe, parce que plus on est nombreux, plus on a de perdus ou d'autres sens, évidemment, pour repérer les prédateurs. La même chose pour les bancs de poissons. Et maintenant, si on fait un autre bond, et qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux espèces ou aux individus à l'intérieur des espèces, mais qu'on rentre à l'intérieur des individus, on va se rendre compte que la coopération est même une force fondamentale de création d'espèces ou d'innovation sur Terre, et ce depuis des milliards d'années. On va s'intéresser aux cellules eucaryotes. Alors les eucaryotes, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les cellules qui constituent votre corps et c'est toutes les cellules qui constituent le corps des plantes, des champignons et de tous les animaux. Un petit rappel, une cellule eucaryote, c'est un contenant qui contient d'autres contenants. Je vous dis ça parce que à l'inverse, les bactéries et les archées, elles ont une membrane et à l'intérieur, il n'y a pas d'autres contenants. Le grand classique, pour comprendre ça avec les eucaryotes, ce qu'on peut voir en haut à droite, ici, vous avez au microscope des cellules de peau humaine ou de grenouille. On voit ici la membrane extérieure qu'on appelle cytoplasme. Et au centre, on voit une autre membrane, donc un autre contenant dans le contenant, qui est le noyau avec le matériel génétique. Comment apparaît la cellule eucaryote? Eh bien, l'hypothèse en ce moment la plus en vogue, c'est justement un cas de symbiose ou de mutualisme, donc d'entraide donnant-donnant entre une archée, entre deux types de bactéries. Se prolongeant durant longtemps, cette aide réciproque se transforme en une endosymbiose au moment où l'archée, ici, va étendre sa paroi externe et contenir désormais à l'intérieur d'elle-même cette bactérie qui l'aidait à son métabolisme. Donc en vous, vous avez tous cette histoire qui s'est normalement passée, on estime, il y a 1,5 milliard d'années et qui a permis la formation de toutes les cellules eucaryotes. C'est une ancienne relation de symbiose qui est devenue endo à l'intérieur, endosymbiotique. Si on réfléchit à cette notion de poupée russe, on peut réfléchir à quelque chose que vous connaissez tous, c'est la flore intestinale, même si flore est un petit peu mal choisie. Vous savez que dans votre tube digestif, vous avez à peu près 160 espèces de bactéries, mais aussi des virus, des champignons, des archées, et qu'elles vous aident à faire énormément de choses. Elles vous aident à fermenter, à digérer les fibres alimentaires, c'est jusqu'à 15% de notre énergie. Elle nous aide à synthétiser des vitamines essentielles à notre survie et aussi beaucoup pour notre système immunitaire. Il y a très récemment, on a découvert que si on faisait des greffes de flore intestinale, donc je vous laisse imaginer comment ça se passe, on arrive à guérir certaines maladies extrêmement graves et peut-être qu'on pense pouvoir guérir par exemple la maladie de Crohn avec ce genre de traitement. Cette idée de poupée russe, elle est en ce moment assez en vogue et recherchée par plusieurs biologistes. Ici, on a une expérience qu'ils appellent le choix du partenaire. On va prendre un animal qu'on utilise énormément en science, qui est la mouche du vinaigre, la drosophile. Et donc, on a une seule population originelle. On la sépare dans deux boîtes. Et dans la première boîte, on va nourrir exclusivement les drosophiles avec de l'amidon. Et dans la seconde boîte, nous les nourrirons uniquement avec du maltose. Pourquoi ils font ça? C'est pour modifier leur flore intestinale et obtenir deux population de mouches avec des flores extrêmement différentes, avec des populations bactériennes très différentes. Lorsqu'on les réunit dans une seule boîte, eh bien, elles ne se reproduisent plus. C'est très important comme résultat, parce que pour un évolutionniste, savoir comment deux populations ne se croisent plus, c'est très important. C'est comme ça qu'on fabrique des espèces, à partir du moment où on scinde en deux une population, et que donc, de chacune de leurs côtés, elles vont se mettre à évoluer, jusqu'à ne plus pouvoir se reproduire. Comment on est sûr, comment ils sont sûrs que c'est bien le rôle des bactéries à l'intérieur de ces drosophiles qui régit cette rencontre, cette capacité à se rencontrer et à se reproduire? Et bien parce que s'ils leur donnent des antibiotiques et donc qu'ils tuent cette flore intestinale, qu'ils tuent cette population bactérienne, les mouches se remettent à se reproduire entre elles. Très rapidement, des recherches aussi très récentes montrent que la richesse à la fois des comportements sociaux et peut-être dirigés par la diversité des flores microbiennes. Par exemple, sur deux populations d'hyènes, enfin deux espèces de hyènes, la hyène tachetée qui est très sociale, peut vivre jusqu'à 80 individus. La hyène rayée, elle, est beaucoup moins sociale, elle vit dans des petits groupes. Eh bien, la hyène tachetée a tout un ensemble de sécrétions pour communiquer bien plus étendu. Et dans les glandes qui permettent de faire ces sécrétions, ils ont une beaucoup plus grande diversité microbienne que les hyènes rayées. Enfin, deux derniers exemples de l'importance de ces relations d'entraide ou symbiotiques dans la nature. Celles-ci sont d'une toute autre échelle. Ici, on s'intéresse aux mycorhizes. Les mycorhizes, ce sont des champignons qui vivent autour des racines des plantes et de tous les arbres, ou à l'intérieur de ces racines. On va parler d'endomycorhizes. On a retrouvé des traces qui datent de 400 millions d'années et on sait qu'aujourd'hui 85% des plantes terrestres sont endomycorhizées, donc possèdent des mycorhizes à l'intérieur de leurs racines. À quoi elles servent ces mycorhizes? Eh bien, elles sont signes d'une symbiose extrêmement profonde entre l'arbre, par exemple, et ses mycorhizes, parce que l'arbre va donner jusqu'à 30% des sucres qu'il photosynthétise avec ses feuilles au champignon, et le champignon en échange, c'est pour ça que c'est gorgé d'eau, un champignon, c'est vraiment une espèce de c'est plein de cavités, ça permet de capter, d'aspirer de l'eau par exemple, le champignon il va donner jusqu'à 30 à 40% des minéraux qu'il capte à l'arbre. Donc c'est vraiment des chiffres extrêmement significatifs. On découvre aussi assez récemment que ces mycorhizes permettent de connecter les arbres entre eux. Par exemple, on sait qu'ils peuvent s'échanger des nutriments via ces réseaux de mycorhizes, mais ils peuvent aussi s'échanger des messages. On sait aujourd'hui que si des prédateurs, par exemple, arrivent à l'orée d'un bois et se mettent à boulotter des feuilles d'un arbre, celui-ci va prévenir les arbres à proximité, qui préviendront eux ensuite les arbres à proximité via des signaux chimiques, via les mycorhizes. Et ces arbres, désormais prévenus, vont se mettre à fabriquer des tanins, c'est ce qui rend le goût amer dans le thé ou dans le vin, et qui est un système de défense très classique dans le monde végétal. Une autre symbiose très importante, ce sont les coraux. Pourquoi très importante? Parce que les coraux, c'est simplement, pour l'instant encore, 0,1% de la surface des océans, qui accueille 25% des espèces marines. Eh bien, le corail, c'est aussi une relation symbiotique entre le polype, qui ressemble à des petites anémones, comme ça, et qui accueille en eux des algues zooxanthelles. De la même façon que l'arbre, c'est bactéries sont photosynthétiques, donc elles vont donner des sucres au polype, et le polype en échange donnera de l'azote, du phosphore, des nitrates et des acides aminés nécessaires aux zooxanthelles. Vous avez certainement vu, peut-être par vous-même, ou peut-être dans des reportages, lorsqu'il fait trop chaud ou que l'eau est trop polluée, le corail blanchit. Et bien, le blanchissement du corail, c'est lorsque le squelette et les polypes sont abandonnés par leurs algues zooxanthelles. Donc, maintenant, intéressons-nous à comment apparaît l'entraide d'un point de vue évolutif. Il y a plusieurs réponses, notamment au niveau microbiologique, mais moi je préfère vous montrer d'abord cette hypothèse-là, celle de Pierre Kropotkin. Elle est intéressante parce qu'elle date du tout début du XXe siècle. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Kropotkin? Il nous dit, dans les milieux hostiles et difficiles, c'est l'entraide qui prime, et dans les milieux abondants, c'est la compétition qui prédomine. Alors, si on regarde l'exemple des manchots que j'ai mis là, c'est évident, les manchots, à la température qu'il fait en Antarctique, ils sont obligés d'avoir ce comportement, vous observez, c'est-à-dire ceux qui sont à la surface des groupes vont passer leur temps à rentrer à l'intérieur du groupe pour pouvoir se réchauffer. Et c'est ce petit mécanisme de tapis roulant qui leur permet de rester en vie. Donc là, il n'y a pas question de la jouer perso, hein, si on est un manchot empereur. Et ce qui est intéressant avec Kropotkin, c'est que c'est un petit peu la même histoire que les reportages animaliers du début, où on voit ce qu'on sait déjà de la nature, où on va chercher la vision qu'on a déjà en nous de la nature. Kropotkin, il est russe, il n'a pas pris le Beagle pour aller voir les Galapagos ou des régions tropicales et très riches, il a observé la Sibérie. Et en Sibérie, évidemment, les conditions sont très dures. Donc ce qu'il a vu autour de lui, c'est d'autres relations animales que les relations qu'on observe dans les milieux les plus abondants. En plus, je vous l'ai mis là, Kropotkin, c'est un anarchiste. Donc évidemment, il a une vision, lui, différente. Il va, justement, c'est ce que je vous explique, il va chercher autre chose dans la nature, parce qu'il a autre chose en lui. Ce qui est intéressant avec l'hypothèse de Kropotkin, c'est qu'elle est confirmée par deux expériences assez récentes. Pardon, c'est ce que vous voyez sur la droite. Ici, en fait, les scientifiques vont mettre dans des boîtes de pétri deux souches de levure. Et lorsque le milieu de culture, quand la boîte de pétri possède très peu de nutriments, très peu de sucre, eh bien, les deux souches vont être dans une entraide qu'on appelle obligatoire. Elles vont s'échanger beaucoup d'acides aminés. Si on enlève une des deux souches, l'autre meurt. Si on rend le milieu un petit peu plus riche, qu'on rajoute des sucres à l'intérieur, par exemple, l'entraide devient facultative. Les deux souches continuent à s'échanger des acides aminés, mais en retirer une permet la survie de la seconde. Si on rend le milieu encore plus abondant, on arrive dans une compétition modérée, dans laquelle, comme on l'a vu dans une des premières slides, elles vont se battre pour les ressources disponibles dans la boîte de pétri. Et si on rend le milieu, mais elles vont toutes les deux survivre dans la boîte. Et si par contre on rend le milieu extrêmement riche, elles vont se battre jusqu'à ce que la mort d'une des deux souches. On observe la même chose, par exemple, entre les espèces de pins et de sapins en altitude. Lorsqu'on observe les relations entre pins et sapins à très haute altitude, où il fait très froid, les conditions sont difficiles, et bien via leur réseau de mycorhizes, ces deux espèces différentes s'échangent des sels minéraux, de l'eau et des nutriments. Alors que si on descend plus bas dans la vallée, là où il fait beaucoup plus chaud et où il y a plus de précipitations, eh bien, les deux espèces vivent en patch, bien séparées, en compétition les unes contre les autres. Darwin, il avait, comme je vous l'ai expliqué avant, il n'avait pas évidemment vu ça, parce qu'il n'a tout simplement pas regardé les milieux les plus hostiles. Par contre, lui, il n'était pas hostile, justement, à une vision collective de la sélection naturelle. On trouve quelques phrases dans The Descent of Man, où il parle de l'origine de l'humanité, et il nous dit par exemple: une tribu comprenant de nombreux membres possédant à un haut degré l'esprit de patriotisme, c'est le langage de l'époque, de fidélité, d'obéissance, de courage et de sympathie, toujours prêt à s'entraider et à se sacrifier pour le bien commun, serait victorieuse sur la plupart des autres tribus. C'est la fin qui est importante, et ce serait la sélection naturelle. Donc lui, il ne voit pas de barrage à l'idée que des comportements coopératifs puissent être sélectionnés par son mécanisme de sélection naturelle. Maintenant, si on s'intéresse à nous, enfin nous les grands singes, hein. Et puis nous, on va voir pas que les grands singes, un des mécanismes qui permet la coopération au sein des groupes de grands singes, c'est l'empathie. Donc l'empathie, vous savez tous, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je disais nous d'un point de vue large, on considère les animaux empathiques comme étant les grands singes, les éléphants, les corvidés, donc les pies, les corbeaux, et plusieurs grands mammifères marins, et je vous ai mis les cochons, mais je sais qu'en ce moment on réfléchit sur les cochons, mais je ne sais pas exactement où on en est. Alors comment les scientifiques définissent l'empathie telle qu'elle existe chez nous? Eh bien, il y a trois étapes. La première étape est la plus complexe, ou la moins répandue dans le monde vivant, c'est la capacité de se reconnaître comme un individu. Pour savoir si un animal est capable de se reconnaître comme un individu, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est similaire des autres de son espèce, mais qu'à la fois il est différent, il est bien un individu, on exécute ce qu'on appelle le test du miroir. On va mettre une tache sur l'animal, et si, au lieu d'avoir l'impression d'être confronté à un autre animal, il touche la tache, c'est qu'il sait que c'est bien lui qui est dans le miroir. Alors ça, vous pouvez essayer avec votre chien ou votre chat, ça ne marchera pas. Il ne réussit pas le test du miroir. Le chat, il attaque tout le temps le miroir. Ou il joue avec, ça dépend dans quel état il est. Donc là, par exemple, on a en orang-outan. Je vais remettre. Il a une tache sur le front. Et la première chose, on ne voit pas trop. Il a une tache là où il met le doigt, en fait. La première chose qu'il fait, c'est toucher, puis la goûter quand même. On ne sait jamais. C'est peut-être du chocolat blanc. Alors, les éléphants, je vous dis aussi, ont cette capacité de se reconnaître en tant qu'individu. Là, s'il était assis, c'est parce qu'en fait, il regardait sous son ventre. On va voir, je vais avancer un peu la vidéo. Et non, je vais pas y arriver, bien sûr. C'est pas grave, on va laisser dérouler, ça prend un peu de temps, on y reviendra. Vous allez voir, il a un comportement, ils ont un comportement classique des animaux qui réussissent le test du miroir, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à s'observer à des endroits où ils ne peuvent pas s'observer naturellement. Donc vous allez voir dans quelques secondes, il va, voilà, il regarde dans sa bouche, il regarde sous ses défenses, il regarde sous sa trompe, tous les endroits qu'il ne peut pas voir tout seul. Toujours très surprenant, les corvidés, donc ici une pie réussissent le test du miroir. Ici cette pie a une tache, on a mis une tache jaune sur son cou. Voilà, elle vient de se voir dans le miroir et là elle essaye avec son bec et sa patte de l'enlever. Ensuite, dans la deuxième étape, on va mettre une tache noire pour être sûr que l'animal n'ait pas ce comportement uniquement parce qu'il est gêné par la tache, enfin par le petit post-it. Et là c'est ce qu'on voit, il ne réagit pas du tout. Ensuite, des animaux comme les dauphins aussi se reconnaissent dans le test du miroir. Pourquoi j'ai pas accès, bon, c'est pas grave, ça va, celle-ci aussi est un peu longue. Alors on sait que le dauphin réussit le test du miroir parce qu'ils ont des comportements qu'ils n'ont pas du tout face à un autre dauphin, classiquement. Donc c'est ces petits mouvements là, où ils vont bouger les nageoires pectorales pour rester en face, et là qu'est-ce qu'il fait? On va le revoir beaucoup plus longtemps après, ben, il regarde son ventre aussi, c'est pareil. Il va défiler devant le miroir pour regarder son ventre. Ça va mettre un peu de temps, on y reviendra. Les humains ne réussissent pas tout de suite ce test. Hein. Il faut attendre 3 ou 4 ans avant qu'un bébé comprenne que ce n'est pas un autre bébé qui pleure dans le miroir, mais que c'est bien lui. Donc là, on voyait une petite fille qui ne réussit pas, par exemple, du tout. Là, on va voir le dauphin adopter ce comportement. Donc, il se regarde dans la bouche aussi, hein, sa grande... voilà, comme ça. On voit bien qu'il reste en face du miroir et qu'il se regarde. Alors, les deux autres conditions que les scientifiques utilisent pour définir l'empathie sont beaucoup plus répandues dans le monde vivant. C'est la capacité à reconnaître les émotions et les réactions chez l'autre et y apporter une solution adéquate à cette émotion. Alors, ici, par exemple, on a un cas très intéressant. C'est deux dauphins, enfin, c'est deux ou trois dauphins qui portent un dauphin qui est paralysé. Ses nageoires pectorales ne fonctionnent plus. Et il le porte, ceci peut durer durant des heures, et ce qui est très intéressant avec cette observation, c'est qu'en fait elle a déjà été faite en 1957 dans un travail d'éthologie, et ça montre l'importance de l'anecdote en éthologie. Et c'est très dur pour un scientifique de reconnaître ça, parce qu'on a besoin d'avoir évidemment des expériences qu'on peut répéter, qu'on peut refaire d'une équipe à l'autre, à l'étranger, etc. Mais malheureusement, l'observation des animaux dans la nature ne colle pas à ça. Donc on a dû attendre entre 1957 et 2015 pour avoir confirmation que cette anecdote existe bien et que oui, les dauphins peuvent s'apporter une aide précise comme ça, comme si un camarade ne peut plus danser, ne peut plus nager, on va le soutenir. À côté, c'est surtout pour rendre hommage à Jane Goodall, qui ici libère un chimpanzé. L'idée ici de voir que, alors en fait c'est des gestes qu'on voit exactement chez les chimpanzés, la façon dont il a exposé son corps pour avoir le câlin par l'arrière, là c'est ce qui arrive très très souvent, on le verra juste en dessous. Et puis je ne sais pas s'il répond à l'émotion qu'il y a chez lui ou chez Goodall, mais en tout cas il va faire une dernière embrassade avant de rejoindre sa forêt. C'est très important de voir ici une image de Goodall parce que c'est à l'époque où cette femme entreprend ses recherches, il est totalement, elle est discréditée parce qu'elle utilise des noms pour ses animaux, alors qu'à l'époque on utilise des numéros pour les animaux. Si on leur donne des noms, ça veut dire qu'on projette des choses en eux qui n'y sont peut-être pas, ce genre de choses. Et pourtant c'est bien avec sa sensibilité qu'elle a permis de faire avancer énormément la compréhension du monde animal. Ici, on voit cette petite tape sur l'épaule, c'est une façon de cesser un conflit ou de commencer à résoudre un conflit chez les chimpanzés. En dessous, là, on voit, donc c'est le singe dominant qu'on voit ici avec son grand sourire. Quelques minutes avant dans la vidéo, il courait après un autre individu qui avait très peur, qui criait fort. Et on va voir ici que dans quelques secondes, ils font quelque chose de très habituel chez les chimpanzés pour arrêter, ou quoi, pour résoudre le conflit précédent, ils vont s'enlacer. À côté, on a aussi une réponse dirigée, c'est-à-dire qu'on voit de l'auto-handicap chez les éléphants. On a un grand mâle ou une grande femelle qui va se mettre sur les genoux pour jouer avec un plus jeune ou un plus faible. Donc je vous disais, la première étape, c'est l'étape du miroir, ça ne marchera pas avec votre chien et votre chat. Pourtant, il y a évidemment beaucoup de maîtres, et moi le premier, hein, qui nous dit être capable de reconnaître des émotions chez un animal. Et je crois que c'est une évidence, c'est quelque chose qu'il faut désormais admettre, qu'évidemment il existe toute une palette très large d'émotions chez les animaux, et j'ai essayé d'en choisir des un petit peu particuliers, comme par exemple ces troupeaux de vaches. Donc ça, c'est des vaches qui sortent de 4 mois dans un hangar et qui revoient l'herbe au printemps. Et moi, j'ai jamais vu des vaches sauter comme ça. On en trouve plein, ça, sur YouTube, si vous cherchez. C'est un peu une tradition aux États-Unis, je pense, en fait. Le moment où on sort les vaches, le village vient. C'est pour ça qu'il y a pas mal de vidéos. Donc ça, c'est la joie chez la vache. Donc un scientifique très sérieux dirait excitation, parce que ça anthropomorphise moins. En dessous, alors bah, des réactions auxquelles on est plus habitué, par exemple là, de l'excitation ou de l'envie ou un manque de patience, je sais pas, chez un chien là qui tape avec ses petites pattes. À côté, on a un chien qui a perdu son maître pendant des mois. La première attitude qu'il a, elle est assez peureuse, on va le voir. Regardez, il a les oreilles rentrées, il baisse la tête, et on va voir qu'il subit un changement évident de son attitude. Lorsqu'il reconnaît enfin son maître, il devient, on dirait, foufou, en langage scientifique. Et donc, il a l'air d'être quand même très heureux. Au-dessus, on a un paysan qui filme son chien et son cheval, qui, c'est lui qui l'explique, sont amis depuis très longtemps. Donc, visiblement, ils passent beaucoup de temps à jouer ensemble. Et je trouve qu'ils ont une forme de joie qui se transmet facilement, je veux dire. Je trouve plus mes mots. Moi, à côté, c'est juste des câlins avec des animaux. On en voit plein de différents. On va voir après des oiseaux, ce qu'on voit un peu moins, où on possède moins d'oiseaux, donc on a moins conscience de leur capacité à avoir des émotions. On voit un gros câlin par un tigre, par exemple. Là, on voit une oie, par exemple, qui a l'air trop excitée de retrouver sa maîtresse. En dessous, un cas très intéressant, si quelqu'un connaît le nom en français, allez-y, c'est le spinner dolphin en anglais, le dauphin qui fait des virevoltes. Ce qui est intéressant avec ces dauphins-là, et en fait, et d'autres, on va voir d'autres comportements avec les dauphins après, c'est qu'ils étaient d'abord interprétés, ça d'un point de vue évolutionniste, on dirait uniquement d'un point de vue fonctionnaliste, c'est-à-dire que quand on voit ce comportement, on cherche une fonction qui permet d'améliorer leurs chances de survie ou leurs chances de reproduction. Donc on se disait, s'ils font ces grands sauts en dehors de l'eau en se tortillant, c'est parce qu'ils ont des parasites sur l'épiderme et ils veulent s'en débarrasser. Aujourd'hui, on a aussi comme hypothèse, à côté, en parallèle, l'idée qu'ils sont juste super contents d'être ensemble et que ça les amuse à mort de faire des pirouettes dans la flotte avec leurs copains. La même chose en bas à gauche. Là, c'est la même histoire, des dauphins qui surfent, soit qui remontent la vague au moment où elle se casse. Donc ça, c'est la même idée. Autrefois, c'était interprété comme une vision uniquement fonctionnaliste pour se débarrasser des parasites. Et c'est peut-être juste une famille qui joue ensemble. En haut, on a un petit gorille qui se jette dans la paille. Il va faire ça 5 fois d'affilée. Il a l'air beaucoup d'aimer ça. Moi, je l'ai mise parce qu'elle me fait trop penser à mon petit neveu qui se jette dans la piscine comme ça, là, à 4 ans, et qui fait ça pendant 45 minutes. Alors, je vous ai dit, il faut avoir des émotions et la capacité à les reconnaître chez l'autre pour avoir l'empathie. Donc ça, je vous ai juste mis cet exemple de cette chouette parce qu'elle change extraordinairement de visage. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre que on peut capter, je veux dire, qu'il existe un langage corporel chez les animaux qui peut être interprété. Et que, évidemment, nous, on n'est pas de la bonne espèce, mais qu'il y a toutes les chances qu'un animal de la même espèce comprenne les émotions qui traversent son congénère. Au-dessus, un exemple plus triste, c'est Coco, qui est désormais morte. Coco, c'est ce gorille qui signait en langage des signes plus de 500 mots différents. Coco, on lui avait donné un petit chaton. Elle était fan de ce petit chaton. Et vous allez voir dans quelques secondes, le chaton, malheureusement, s'est fait écraser à côté du centre où vivait Coco. Coco, elle est connue parce qu'il y a une vidéo avec Robin Williams, l'acteur, je ne sais plus. Voilà. Et là, la soigneuse explique à Coco, avec le langage des signes, que le chat est mort. Coco va signer, et elle va signer tristesse, mal, malheur, malheur, tristesse, plusieurs fois d'affilée. Voilà, bad, sad, sad, malheur, tristesse, tristesse, frown, je sais pas, froncer les sourcils, non, ouais. Et cry, ensuite, pleure. Ici, je vous ai montré des pies tout à l'heure. On sait, chez les gorilles comme chez les chimpanzés, on a déjà observé plusieurs moments de deuil. Donc ça peut durer plusieurs heures, voire par exemple une femelle qui perd son petit peut le garder avec elle des jours durant, voire des semaines durant, le cadavre de son petit. Ici, on va voir tout le groupe défiler, nettoyer le cadavre des larves de mouches qui ont déjà commencé à être pondues à l'intérieur, etc. Et leurs comportements sont totalement différents qu'à l'habitude. Hein. Et puis, si je vous montre tout ça, c'est parce que, d'un point de vue évolutionniste, si on est conséquent, il est absurde d'imaginer que nous avons des émotions et qu'elles seraient nulle part dans la nature. Si nous les avons, c'est qu'elles viennent évidemment des mêmes processus évolutifs et de sélection naturelle. Et d'ailleurs, en fait, quand on s'intéresse à des animaux, c'est plus ou moins éloigné de nous. Par exemple, si on observe le campagnol, on comprend l'importance de ce qu'on appelle l'écologie, c'est-à-dire la manière dont l'animal est au monde. Le campagnol des prairies, par exemple, est un animal monogame et social, tandis que le campagnol des montagnes, lui, ne l'est pas, il est solitaire. On sait que lorsque le campagnol des prairies est en contact avec sa femelle, il va se mettre à fabriquer de l'ocytocine, exactement comme nous. Donc il est normal qu'on partage évidemment les mêmes chemins hormonaux. Ils nous ont tout simplement été hérités, comme au reste de la biodiversité. On a en dessous un poisson, ça c'est une expérience très récente du CNRS. Ils arrivent à montrer que si la femelle ou le mâle, si le conjoint est présent dans l'aquarium à côté et que le poisson qui fait le test observe son conjoint, eh bien il sera plus motivé ou il aura une vision plus positive du test. En fait, on va mettre c'est ce que vous voyez au centre, là, dans cette petite boîte, il y a des fois de la nourriture et des fois pas de nourriture. Donc le poisson, il a appris à reconnaître les cases dans lesquelles il y a tout le temps de la nourriture, dans lesquelles il n'y en a jamais, et il sait que ça, parfois, il y a de la nourriture. Et en fait, il va, normalement, il y a la crainte qu'il y ait un prédateur, etc., donc il ne va pas consacrer du temps à aller voir la boîte si ça n'en vaut pas le coup. Eh bien, si la femelle ou le mâle, si son conjoint est présent, il va le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus souvent que s'il est seul dans l'aquarium. Encore un cas d'émotion chez les animaux. Ici, vous allez voir de la colère. Donc là, c'est deux capucins qui font la même tâche, mais qui ne reçoivent pas le même salaire. Le premier... Le premier capucin, il donne une petite pierre, c'est la tâche qu'il doit accomplir, et il reçoit un concombre. Concombre, c'est pas mal, mais c'est moins bien que le raisin que va recevoir son camarade. Donc le camarade, il fait la même tâche, il lui donne une pierre à la préparatrice, il mange le raisin, et là, lui, il l'a vu manger le raisin pour la même tâche. Donc, il redonne la pierre, il reçoit un concombre. Je vous laisse regarder. Ils vont recommencer, et il va même pas goûter la deuxième fois. Il va lui dire, tu te casses avec ton concombre, là. Il ne veut même plus vraiment faire la tâche, vous avez vu, il est un peu renâclé. Voilà, et là, il a le concombre, ouais, bah vas-y, c'est bon. Chut, allez. Pour finir avec les émotions dans le monde animal, je vais vous parler de PTSD, disent les Américains, donc le syndrome post-traumatique, quelque chose qu'on a énormément découvert après la guerre du Vietnam. Plus de 25% des soldats qui revenaient des conflits, mais toujours aujourd'hui, vont avoir des symptômes de grand stress, de dépression, et notamment, quelque chose qui est partagé par tous les gens qui ont ce syndrome, c'est une apathie face à la menace. C'est-à-dire que quand ils sont en danger, au lieu de fuir, au lieu de se cacher, ils vont rester figés, et ils vont même avoir quasiment aucune réaction. Eh bien, on a observé que chez des éléphants orphelins en Afrique du Sud, exactement les mêmes comportements étaient observés. Si en fait on... Alors, pourquoi ils sont orphelins ? Parce que dans les années 70-80, en Afrique du Sud, on avait peur de se retrouver avec trop d'éléphants dans les réserves. Et donc, on acculait les groupes d'éléphants qu'on avait choisis dans un coin du parc. Et avec un hélicoptère, on tuait tous les adultes et on ne laissait que les petits. Les petits, donc, ont survécu, ont formé des groupes d'orphelins. Et ces groupes d'orphelins, si on les met en contact d'un son très fort d'une matriarche adulte, donc c'est-à-dire d'un individu dominant dans un groupe d'éléphants, la réaction normale d'un groupe, c'est qu'ils s'arrêtent, ils reniflent partout, ils sentent, ils regardent, ils essayent d'évaluer la menace et d'où elle vient. Eh bien, ces jeunes, enfin plus si jeunes, hein, c'est des dizaines d'années d'après qu'on a fait ces observations, des dizaines d'années après qu'on ait tué leurs parents, eh bien, ils sont eux aussi totalement apathiques face à la menace, ils ne réagissent pas du tout, ils ne comprennent pas le message social exprimé par ce cri de matriarche. En plus, ces éléphants orphelins sont responsables de la mort de plus de 100 rhinocéros en Afrique du Sud, ce qui n'était jamais observé en fait. En haut, je vous l'ai mis juste, c'est pas exactement un PTSD, mais ça c'est la dépression chez un animal. On le voit très souvent dans les zoos, c'est ce qu'on appelle des mouvements stéréotypés. Merci Flo. Des mouvements stéréotypés. Donc typiquement, soit faire en permanence le même chemin dans la cage ou avoir ce genre de mouvement permanent de la tête. Maintenant, je vous ai dit, il fallait donc avoir des émotions et être capable de les communiquer. Donc, si on s'intéresse un petit peu à la communication animale, on ne peut pas rater les dauphins. On sait chez une espèce au moins de dauphins que ceux-ci sont capables d'avoir un nom, c'est-à-dire en fait une signature sonore qui leur est propre. Et d'ailleurs, comment fait un dauphin pour appeler un camarade ? Eh bien, il imite sa signature vocale. Donc en fait, il l'appelle par son nom. On sait aussi qu'ils sont capables, dans leur chant, ils vont rajouter l'identité de leur famille ou de leur groupe plus large. La communication, donc ça peut être aussi complexe que chez le dauphin, mais ça peut être aussi comme chez les hyènes, que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, un exemple extrêmement intéressant, parce que c'est les recherches de Marc Bekoff, voilà, qu'on voit ici maintenant qui est bien vieux. Marc Bekoff, comme Goudal ou Franz De Waal, c'est des gens qui ont commencé à insister pour faire reconnaître l'émotion chez les animaux. Et là, il nous parle du playbow. Alors le playbow, c'est-à-dire c'est le comment dire, la courbette de jeu. Voilà, c'est ce que vous voyez de voir là. En fait, le chien va baisser l'avant de son corps et garder l'arrière du corps relevé. Et un chien fait toujours ça avant de jouer. Ça veut dire je veux jouer, je suis d'accord pour jouer. Si donc deux chiens vont commencer leur jeu par faire chacun un playbow. Si par exemple, voilà, si ça maintenant vous savez, vous allez le voir à chaque fois, vous allez dans un parc, il y a des chiens, etc. Quand deux chiens jouent ensemble, ils font le playbow. Et si un chien va trop loin, il mordit un peu trop fort, etc. Parce que le jeu, c'est toujours un méta-jeu, c'est toujours faire semblant. Et s'il se met à, par exemple, à mordre son compatriote, il va être vexé, l'autre, et ben il va attendre, on va attendre que celui qui est vexé fasse un playbow, l'autre refera un playbow et ils se remettront à jouer. Ce qui est très intéressant ici, c'est parce que Bekoff, il travaille sur tous les canidés et il observe ça chez tous les canidés. Les loups, les coyotes, les renards. Donc, c'est encore cette idée que j'essaie de vous transmettre, que les modes, que ce soit communicationnel ou d'émotion, sont évidemment hérités, sont héritables. Là, on retrouve chez toute la famille des canidés le même mode de communication par playbow. Enfin, j'ai presque fini. Enfin, ça c'est que chez les animaux, on va dire, qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant les plus intelligents, ou en tout cas avec une intelligence les plus proches de la nôtre. Je vous disais, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre ou à imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre. C'est ce qu'on appelle en termes pompeux scientifiques une théorie de l'esprit. Et on sait par exemple que les corvidés possèdent une théorie de l'esprit. Alors comment on le démontre ? Avec plusieurs expériences de ce type-là. Par exemple, on met un corbeau dans une cage, on lui donne de la nourriture, et dans sa cage, il y a plein d'endroits différents où cacher la nourriture. des endroits où ça va faire du bruit, rempli de galets, et des endroits où il y a du tissu, de la plume, où ça ne fera pas de bruit. S'il n'y a pas de corbeau dans les cages à côté, le corbeau cache n'importe où sa nourriture, et par exemple dans les galets. Par contre, s'il y a un corbeau dans les cages à côté, il l'a entendu, il ne l'a même pas vu. S'il entend un corbeau à côté, il sait que l'autre corbeau peut l'entendre, et donc il cache sa nourriture là où ça ne fait pas de bruit, dans les plumes. Ces animaux, comme la plupart des plus doués que je vous ai montrés précédemment, ont aussi la notion du temps, en tout cas les grands singes et les corvidés. On le sait par des types d'expériences du genre, on leur donne un outil pour résoudre un casse-tête qui leur donnera une récompense plus tard. On leur donne un outil, le casse-tête viendra 6 heures plus tard. L'animal, il conserve l'outil parce qu'il sait que ça va lui servir plus tard. Il a notion du temps. Par exemple, les corbeaux aussi, si on leur donne plein de nourriture différente, il les cache et ensuite il va revenir chercher d'abord la nourriture qui va périmer le plus vite et ensuite manger ce qui se conserve le plus longtemps. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus spécialement aux groupes sociaux des grands primates, et comme nous par exemple, on peut s'intéresser à une expérience très très intéressante faite par des économistes, des psychologues et des sociologues qui s'appelle le jeu du pot commun. Donc là, en fait, on va mettre une dizaine de cobayes autour d'une table et on va leur donner, disons, 100 euros chacun. Il y a un pot au milieu de la table et on va y avoir plusieurs tours de jeu et on va leur expliquer. Vous mettez la somme que vous voulez dans le pot commun. À la fin du tour, on multiplie l'argent par 2 qui est dans le pot commun et on la redonne à tous les joueurs, que vous ayez participé ou non. L'attitude des cobayes humains face à ce jeu, c'est de mettre 50% de leur capital, en moyenne, directement dans le pot commun dès le premier tour de jeu, et même avec des inconnus. Ce qui est en fait plus intéressant avec cette expérience, parce que là c'est un peu basique, c'est qu'on peut faire varier ce taux. On peut encourager les joueurs à mettre énormément d'argent, quasiment tout leur argent directement dans le pot, ou au contraire à arrêter totalement de jouer. Et comment on fait ça? Par deux façons différentes. Si en fait on stresse les joueurs, c'est-à-dire que si le scientifique il rentre dans la salle et leur dit « Ok, il vous reste 5 secondes, vous prenez votre décision », eh bien le comportement, et ça c'est assez contre-intuitif, c'est de participer beaucoup plus généreusement au jeu. Notre réflexe, ça va être l'entraide. Ça, c'est pas si étonnant. C'est-à-dire que si vous voyez un enfant qui trébuche devant vous dans la rue, vous n'allez pas prendre 5 minutes à réfléchir pour savoir si sa mère l'a vu, s'il ne va pas se faire mal ou quoi que ce soit. Vous vous baissez pour essayer de l'éviter de se casser la tête sur le sol. Par contre, si le scientifique il rentre et il vous dit « Vous avez 15 minutes, je reviens, on fait le premier tour de jeu », eh bien là, énormément de comportements égoïstes vont se mettre à apparaître. Pourquoi? Parce que la bonne attitude face à ce jeu, si on joue tous, on gagne tous beaucoup plus. Par contre, individuellement, si je ne joue pas, je ne perds pas mon capital, mais je gagne un peu du capital des autres, parce que le pot commun il est divisé entre tous les joueurs. Donc on voit ici que dans l'espèce humaine, il faut prendre du temps pour réfléchir à une solution égoïste. La deuxième façon de faire varier ce taux, c'est en instaurant un système de récompense ou de réputation. Plus vous participez au pot, plus vous gagnez des points, plus vous êtes reconnu par le groupe, et de punir les tricheurs. Si on ne punit pas les tricheurs, le taux de participation s'effondre. En fait, c'est très simple. Si on fait un tour de jeu, qu'il y en a 3 qui ne participent pas, et ils commencent à prendre de notre capital, et puis on refait un tour de jeu, désormais il y en a 4, il y en a 5, et au bout d'un moment, plus personne ne veut contribuer au pot commun, puisqu'on n'a pas envie juste de donner à ceux qui foutent rien. Ça, c'est quelque chose qui doit faire réfléchir, par exemple, qu'on est biologiquement programmé à s'entraider si on a des systèmes pour punir les tricheurs ou récompenser ceux qui s'entraident. Cette expérience, elle est intéressante parce que chez les grands singes, beaucoup de comportements sont régulés de cette manière-là, c'est-à-dire je vais te rendre service, pas que chez les grands singes d'ailleurs, je vais te rendre service à un moment, plus tard, tu vas me rendre ce service. Les individus qui ne rendent pas les services sont ostracisés. Donc, la conclusion de cette conférence, mais attention, il reste quelques slides, c'est que dans la jungle, il existe évidemment, sortez pas ici en pensant qu'il n'y a pas de compétition, évidemment, la compétition est très importante pour expliquer l'évolution, mais l'entraide aussi est présente partout, comme j'essaie de vous le démontrer, entre des espèces, à l'intérieur des individus. Et c'est pas si choquant au final, en fait, hein, si on y réfléchit profondément. Enfin, je veux dire, Vous passez pas votre temps à casser la gueule aux gens dans la rue. Je veux dire, la plupart des gens que vous croisez, bah peut-être pour certains, mais si la plupart des gens que vous croisez au magasin, etc., les interactions sont pacifiques, je veux dire. Vous n'êtes pas tout, même si des fois on croise un con sur la route, hein, je sais. Eh bien, dans la nature, c'est la même chose. Un prédateur rassasié, par exemple, ne va pas se mettre à tuer des proies juste pour le plaisir. Là, on voit, par exemple, ça, c'est tout récent, là, un raton laveur qui part en vadrouille avec un coyote. Et là, une chèvre qui mange sur le dos d'un taureau. Là. Et donc, ce que j'essaye de vous démontrer, fondamentalement, c'est pas plus fou que les anciennes limites qu'on mettait à ce qui est la nature et ce qui est l'homme. Quoi. Avant, ce qui était la nature et ce qui était l'homme, il y avait par exemple bah, l'outil. Alors que l'éléphant, il est super fort pour se faire un cure oreille. Là. Enfin, j'ai pas trouvé mes mots, c'est pas grave. On voit là, par exemple, un chimpanzé qui pêche des algues. Ou là, un capucin qui va casser des noix avec un caillou. Donc, fondamentalement, c'est pas plus fou que d'imaginer qu'il existe des émotions chez les animaux qui sont capables de les communiquer et qui sont capables de résoudre un conflit, une peine chez un autre. Là, par exemple, c'est un petit orang-outan qui se bidonne devant un tour de magie. Ou là, c'est deux chimpanzés qui s'échangent de la nourriture. Et si vous êtes un évolutionniste conséquent, eh bien, vous êtes obligé d'adopter cette vision. Parce que l'évolution, c'est un processus qui est cumulatif et graduel. Donc ce que vous êtes aujourd'hui, c'est évidemment l'accumulation graduelle de changements. Si, donc vos émotions aussi. Si on écoute Franz de Waal, il nous dit, dans l'âge de l'empathie, nous commençons par postuler des frontières nettes, comme entre les humains et les singes, ou entre les singes et les grands singes. Et nous avons en fait affaire à des châteaux de sable qui perdent une grande partie de leur structure lorsque la mer des connaissances s'abat sur eux. Ils se transforment en collines, de plus en plus nivelées, jusqu'à ce que nous revenions là où la théorie de l'évolution nous mène toujours, une plage en pente douce. Et époque oblige, je suis obligé de vous faire 5 minutes sur le contexte actuel. Donc l'homme est un loup pour l'homme. Ben, franchement, je ne suis pas d'accord. Mais en fait, l'homme est un loup pour l'homme, franchement, je suis vachement d'accord. Parce qu'on n'est pas obligé d'abandonner l'argument naturel. On peut aussi le réinvestir. C'est-à-dire qu'on peut essayer de comprendre ce qu'il y a de bon dans la nature, qu'il n'y a pas uniquement en nous, dans notre nature et dans la nature, quelque chose d'agressif et de violent. Mais oui, on est un loup pour l'homme, bien sûr, parce que le loup, il vit en société complexe, basée sur une très grande entraide, sur une société hiérarchisée. Il exprime de très nombreuses émotions qu'il est capable de communiquer aux autres loups et il construit ses relations par énormément de jeux et de coopération. Donc, si justement on revient un peu au contexte actuel, il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, mais ça fait déjà certains temps, en fait, ça fait depuis la Seconde Guerre, qu'il y a un tabou sur l'argument naturel. Et c'est normal. L'argument naturel, il a été utilisé pour faire les trucs les plus sordides que l'humanité a produits. Donc, c'est une attitude rationnelle d'éviter d'utiliser l'argument naturel. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, tous les mots des arguments naturels sont présents, par exemple, dans les discours politiques. C'est-à-dire qu'on va parler de s'adapter, on va parler d'être en compétition, on va dire qu'il faut savoir évoluer, qu'il faut savoir changer, qu'il faut être agile. Alors si on prend les instigateurs de la pensée politique qui domine aujourd'hui dans le monde entier, hein, ce n'est pas un cas franco-français, eh bien c'est le libéralisme, on va donc parler, qui lui utilise justement ces mots d'adaptation, de compétition, ça vient de cette pensée politique. Et donc si on prend les deux grands chefs, c'est les deux créateurs, c'est Thatcher et Reagan. Thatcher, elle nous dit, il n'existe pas de choses telles que la société. Donc déjà, le capucin, il n'est pas d'accord avec son concombre. Lui, il voit bien qu'il y a d'autres individus et qu'il est lié à eux. Il n'existe que des individus mâles et femelles. Reagan va nous dire, free competition, winner-loser, compétition libre, des gagnants, des perdants. La compétition produit toujours mieux. Et puis là, on trouve en fait durant 40 ans les mêmes, hein, c'est-à-dire que Clinton, qui vous voulez, Blair en Angleterre, etc., jusqu'à chez nous, hein, parce qu'on ne va pas non plus être original. Donc par exemple, j'ai juste tapé compétition et Macron, on trouve nous avons décidé d'aligner la France à la compétition européenne, donc la compétition. On voit comment même si l'argument naturel est un tabou, il est en réalité totalement utilisé sans être nommé. On voit Gattaz ici qui nous dit « La compétition fait progresser les gens » quand il parle de la privatisation de la SNCF et des services publics. Alors, il s'y connaît très bien en compétition, vu qu'il a hérité de l'entreprise de son papa et qu'il était président du MEDEF comme son papa. Ce que je vous développe ici, c'est-à-dire que cette idée qu'en fait, on utilise tout le temps le vocabulaire évolutif dans la politique actuelle sans jamais la nommer, parce que c'est un tabou. C'est notamment expliqué dernièrement par Barbara Stiegler. Vous pouvez trouver plusieurs interviews d'elle sur France Radio. Et puis, je ne pouvais pas vous résister à l'envie de vous coller à l'actualité la plus chaude du monde de la recherche. Vous pouvez voir le sourire émerveillé de notre PDG. Nous avons un PDG au CNRS qui déclare à la fin de l'année dans les Échos pour la future réforme de la recherche, dont des centaines de laboratoires sont en lutte en ce moment contre. Il nous dit « Je veux une loi ambitieuse et inégalitaire. » Oui, inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne. Donc on voit sa bonne connaissance. Encore une fois, donc il est mathématicien, mais bon, j'ai rien contre les mathématiciens, mais là, vraiment, il dit n'importe quoi d'un point de vue de l'évolution. Et donc, ce que fait Petit, ce que fait Thatcher, ce que fait Reagan, ce que fait Macron, c'est ce que les sociologues appellent la naturalisation des rapports sociaux. Les rapports sociaux, par exemple, entre hommes et femmes, on a longtemps utilisé l'argument naturel. Une femme, elle n'est pas assez forte pour être soldat, elle n'est pas assez forte pour être flic, elle n'est pas assez intelligente pour être chercheur. On a aussi utilisé, évidemment, la naturalisation des rapports sociaux, mais par exemple, l'empereur japonais faisait beaucoup de discours pour expliquer la supériorité de la race japonaise, qui justifiait donc, par exemple, les pires horreurs en Chine, parce que c'était normal qu'une race supérieure remplace une race moins compétitive. On trouve les mêmes métaphores, par exemple, dans le nazisme, qui va nous dire l'Allemagne jeune et vigoureuse, comme une espèce comme ça, pleine de force, qui doit remplacer, par sélection, une France vieille et décadente. Je vous ai mis un vieux Grolandais, là, pour illustrer la France. Et donc, in fine, ce que ça fait aujourd'hui, parce que bon, je ne suis pas du tout en train de comparer avec les nazis, ce n'est pas du tout ça le point de vue, mais c'est bien ce qu'on appelle de la naturalisation des rapports sociaux. Donc là, si on s'intéresse à un rapport social entre riches et pauvres, par exemple, eh bien, aujourd'hui, on naturalise les gagnants. Ça veut dire que... Alors, on sait bien que ce n'est pas normal que 8 personnes possèdent autant que 3,5 milliards. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On ressent ça dans notre chair. Mais il y a quand même une habitude chez beaucoup de gens à naturaliser le fait que certains nous dirigent tout simplement parce qu'ils auraient une naissance différente. Par exemple, alors ce qui est bien aussi, c'est qu'en plus d'Antoine Petit qui me fournit le darwinisme social il y a 3 semaines, j'ai un autre exemple qui vient de sortir sur BFM. Donc cette dame, Anna Cabana, elle nous dit « Emmanuel Macron, il impressionne tout le monde autour de lui, il est exceptionnel, Emmanuel Macron, son tempérament, son intelligence, et c'est là que c'est intéressant, et la chimie assez exceptionnelle de son être. » Donc c'est ça la naturalisation des rapports sociaux. C'est-à-dire que si certains ont leur place, c'est parce qu'ils sont naturellement supérieurs. Et la conséquence, la pire en fait, c'est que si on naturalise les gagnants, ben on naturalise les perdants. Et donc, s'il y en a qui crèvent dans la rue, bah, c'est normal. C'est juste que leur nature, leur essence, elle est moins bonne et ils ont perdu au jeu de la compétition et de la sélection. Là, par exemple, je pense que vous l'avez tous entendu. Mais...
Et la première te dit, j'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle ne s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle ne s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux.
Elle a quand même
ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi.
Bien payé.
Non mais peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main.
Voilà, donc ça c'est un cas typique de méritocratie, c'est le mot qu'on utilise. C'est-à-dire qu'il y a ceux d'en haut, ils méritent, ceux d'en bas, ils méritent aussi. Même si, par exemple, en France, seuls 10% des fils et filles d'ouvriers deviendront cadres, c'est pas grave, c'est juste le mérite en fait. Donc je vous laisse avec quelqu'un de beaucoup plus brillant qui va expliquer ça de manière plus douce aussi, avec Albert Jacquard pour la dernière vidéo.
Demain dépend de nous. Et oui, c'est une évidence. Demain dépend de nous et nous le savons. Et par conséquent, nous n'avons pas le droit de laisser tomber. Il nous faut faire un projet pour demain. Il ne s'agit pas de prévoir ce qui sera, mais il s'agit de faire en fait le prophète. Le prophète ne disait pas « voilà ce qui va arriver ». Il disait « faites attention, si vous continuez dans telle direction, ça va mal tourner ». Or, actuellement, on a besoin d'un prophète ou de plusieurs prophètes qui nous disent ça. On est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions. La direction de la compétition, la direction de la destruction des uns par les autres. Et c'est une folie totale. Pourquoi est-ce que personne ne nous le dit? Moi, ce qui me semble, par exemple, monstrueux, c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. Il faut être meilleur que l'autre, il faut passer devant l'autre. Mais songeons à ce que on évoquait tout à l'heure, pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens. Et par conséquent, je suis en train de me suicider. C'est ça qu'on devrait nous dire. Toute compétition est un suicide.
C'est vrai, mais est-ce qu'il y aurait eu un Albert Jacquard sans compétition?
Oh oui, il n'y aurait pas eu de polytechnicien. Mais j'y perdrais pas grand-chose. Bien sûr, pour entrer à Polytechnique, vous savez, on est 1500 candidats, il y a 300 places. Bon, il faut donc être dans les meilleurs, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça signifie, meilleur? Ça signifie être capable de consacrer toute son intelligence à étudier des choses qui ne vous intéressent pas, mais qui sont au programme. Et par conséquent, c'est faire vraiment acte de soumission, c'est faire preuve de conformisme. Et actuellement, le système des grandes écoles, le système de la compétition, ne fait que sélectionner les plus conformes. Or, on a besoin d'un monde, on entre dans un monde qui va se renouveler, et plus on est conformiste, plus on est dangereux. Par conséquent, on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. Non, ce qu'il y a de meilleur en Albert Jacquard, s'il y a quelque chose de bon, ça ne m'est pas venu de là. Ça m'est venu des regards que j'ai acceptés, non pas des compétitions que j'aurais gagnées. Sûrement pas. Or, là, on est en train de se fourvoyer complètement. Moi, je voyais ça quand j'étais prof en première année de médecine. Vous savez, en première année de médecine, j'avais devant moi 400 élèves et on savait qu'il n'y en avait que 100 ou 120 qui auraient le droit de passer en deuxième année. Alors c'était la lutte à couteau tiré, ils se donnaient des faux renseignements. C'était abominable entre eux, on était en train d'en faire des tueurs. Eh bien, préparer des futurs médecins en leur donnant une mentalité de tueur, il y a quelque chose de pourri là-dedans. Non, ce n'est pas sérieux. Je crois qu'il nous faut extirper la notion de compétition de toute la société, et en particulier du système éducatif. Le pire de tout, c'est d'avoir fait des écoles des lieux où on est en compétition les uns contre les autres.
C'est la fameuse phrase de Bachelard, en fait.
La fameuse phrase de Bachelard que j'ai répétée à plusieurs reprises. Il faut mettre la société au service de l'école et pas l'école au service de la société. Et justement, c'est en mettant l'école au service de la société qu'on organise la sélection entre les enfants, et donc la compétition. Ce n'est pas sérieux. Il nous faut dire qu'on est au service d'intelligences qui sont en train de se construire, et par conséquent, il faut les aider autant que l'on peut, mais surtout pas en leur disant « tu vas être plus intelligent qu'un autre, c'est complètement absurde ». Ou « tu vas être... » Non, tu vas te construire grâce aux autres.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Corentin. Donc, c'est difficile de prendre la parole après ton exposé et les dernières phrases de M. Jacquard. Donc, effectivement, c'est un grand panorama qu'on a tracé ce soir sur l'évolution, la nature et puis le darwinisme social sur la fin. Donc, si parmi vous, certaines personnes veulent des compléments ou d'autres exemples à donner pour illustrer ce qui a été dit en partie au cours de la soirée, n'hésitez pas.
Si vous avez des anecdotes avec vos animaux de compagnie, moi, je suis...
Voilà.
N'hésitez pas, c'est pas du tout ma spécialité scientifique. Hein, donc voilà. on est à égalité par rapport à ça. Hein.
Alors, les femmes.
Merci. Oui, c'était par rapport à ce que vous disiez sur le quand il y a de l'abondance, qu'il y aurait plus de compétition, enfin moins d'entraide quand il y a de l'abondance. Et en fait, récemment, j'ai regardé un documentaire sur une communauté de mixte, de babouins, de chiens et de chats. Et en fait, justement, parce qu'il y avait de l'abondance, ça permettait que cette société existe, en fait, et qu'il y ait un lien d'entraide, alors que si la nourriture commençait à se raréfier, ben, il y avait plus de risques, justement,
Il expliquait comme ça dans le reportage. Je connais le reportage, ouais. Il disait que c'était l'excès de nourriture qui permettait la coexistence des chats, des chiens et des babouins. Ouais, je connais le reportage, mais j'en avais un souvenir différent. Mais j'ai pas de réponse en fait par rapport à ça direct.
Dans cet exemple-là, on peut peut-être revenir aux zèbres et aux gnous, sachant que les animaux qui cohabitent ne vont pas utiliser la même nourriture.
Les chats, les chiens, les babouins.
Là, ils partagent leur nourriture.
Ouais, dans le reportage, c'est assez intéressant, en effet. Ils partagent leur nourriture et les chiens font office de garde pour les groupes de babouins. Ouais. Non, mais je suis désolé, j'ai pas de réponse directe. Il faudrait faire le même groupe avec moins de ressources pour comparer.
Moi, je voudrais revenir sur la dernière citation qui apparaît là sur l'écran, ouais. Celle de Wilson et Wilson, parce que bon, là, quand je suis venu là, moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu différent, quoi. Parce que c'est des choses qui m'intéressent, mais je suis économiste, et moi, je m'intéresse à ça à travers la théorie des jeux, notamment la théorie des jeux évolutionniste, et Wilson, Axelrod, enfin, sont des gens qui ont travaillé ça, qui ont modélisé ça. Et effectivement, quand on fait ces modèles mathématiques de théorie des jeux, on arrive à ces genres de conclusions. L'égoïsme bat l'altruisme au sein des groupes, les groupes altruistes battent les groupes égoïstes. Et après, il y a des applications qui sont faites, alors, dans une vision darwiniste, de dire, effectivement, il y a peut-être, s'il y a de l'altruisme qui survit et qui apparaît, qui reste au cours de l'évolution, c'est peut-être parce que les groupes altruistes ont réussi à trouver des modalités de fonctionnement qui leur ont permis de se maintenir, de se reproduire. Les groupes non altruistes se sont autodétruits dans certains cas. Et alors après, la question qui vient derrière ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que bon, le petit couplet de finale là, sur les politiques, les grandes déclarations, tout le problème, c'est que si on part de ça comme étant une espèce, alors je ne dis pas que c'est une vérité scientifique, mais comme étant un point d'entrée scientifique en termes d'analyse, c'est cette théorie des jeux, la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution? Parce que bon, j'ai des souvenirs de travaux en économie pour essayer d'appliquer ces choses-là, et il y avait ça, il y avait par exemple, je donne l'exemple, c'était de se dire, c'était sur des histoires de politique protectionniste en commerce international. Est-ce qu'il faut mettre en place une institution qui va essayer de policer tout le monde? En sachant qu'avec ce système de où tout est policé, ça prend beaucoup de temps pour essayer de trouver des solutions et pendant ce temps-là, pas d'action. Ou est-ce qu'il faut parfois laisser les gens faire de la réponse du tac au tac? Parce que quand on fait les jeux évolutionnistes, on montre que le tit for tat, c'est une des stratégies qui permet d'inciter les gens justement à devenir altruistes, parce qu'ils vont se rendre compte que s'ils font n'importe quoi, ils vont se faire taper sur les doigts par les autres. Et donc, est-ce qu'il faut imaginer parfois, au niveau de la règle sociale, de laisser jouer cette espèce de possibilité de représailles individuelles plutôt que d'essayer de toujours tout encadrer? Et là, il y a des questions qui sont, je trouve, intéressantes du point de vue des sciences sociales.
Merci pour la question, elle est passionnante. Déjà, la citation là, qui date de 2008, ouais, de Wilson, c'est une façon de remettre en avant la sélection multiniveau. Donc en effet, le fait que des groupes altruistes puissent être sélectionnés aux dépens des groupes moins altruistes. Alors déjà, pour faire une petite pause là-dessus, c'est un débat encore très chaud chez les évolutionnistes, qui n'est pas du tout tranché, avec Dawkins d'un côté, qui est une sommité aussi, avec le gène égoïste, etc. Mais alors, pour revenir à votre question plus largement, si on s'inspire, par exemple, du jeu très classique, du pot commun, ou du fonctionnement des grands singes à l'intérieur de leurs groupes sociaux, en faisant une hypothèse assez parcimonieuse qui serait que nous avons les mêmes contraintes que les groupes des grands singes, en tout cas profondément. Moi, il me semble en effet évident, alors je ne sais pas si c'est ce qu'il faut, c'est un grand organisme qui gère tout ça, ou si ça doit être géré autrement, collectivement, à plus petite échelle, mais il est évident que tant qu'on a une société, en tout cas, où on ne punit pas ceux qui ne contribuent pas, et qu'on ne récompense pas ceux qui contribuent, on ne générera pas plus de comportements altruistes. Et c'est même si l'expérience est très simple, je trouve qu'elle montre en tout cas bien cet effet, et qui est normal qu'on ressent chez nous à différentes échelles. Ça peut être dans un groupe qui part en vacances, à l'intérieur d'une famille, comme dans toute une société. Le fait de voir que les plus puissants ou les plus riches arrivent à échapper, par exemple, à une certaine forme d'impôt ou de redistribution, n'encourage pas les plus pauvres à eux-mêmes à contribuer à l'effort national. Ça me paraît pour moi une évidence, mais j'ai pas de réponse simple à vous donner, évidemment.
Merci.
Alors moi, j'ai deux petites anecdotes simplement qui vont peut-être vous parler par rapport aux travaux de Kropotkin qui montraient que l'entraide et la coopération émergeait surtout dans les milieux difficiles. Vous-même ou des amis ou de la famille, vous êtes peut-être partis à l'étranger dans des pays pauvres. On entend souvent que là-bas, les gens sont adorables, sont très gentils, s'entraident beaucoup. Et moi, c'est quelque chose en fait qui m'est vraiment revenu, cette anecdote-là, quand j'ai eu connaissance des travaux de Kropotkine, en me disant mais c'est vrai que en fait c'est quelque chose qu'on observe vraiment. Et je me suis dit voilà que peut-être c'était lié à ça. Et de la même manière, quand on a des événements naturels catastrophiques, des tempêtes, des inondations qui vont dévaster des milieux, souvent ce qu'on nous rapporte quand c'est des événements qui ont lieu loin, on nous rapporte que ce qui a lieu sur place sont des pillages de magasins, essentiellement des vols. Mais en fait, quand on entend les populations locales sur place, ils nous disent qu'ils sont dans une grande entraide parce que justement, ils sont confrontés à une situation difficile et que pour pouvoir s'en sortir, ils ont besoin de s'entraider, de coopérer.
Ouais, pour aller dans le sens de la dernière intervention, c'est l'exemple de la tempête Katrina, dans le sud-est des États-Unis il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a été terrible pour les États du Sud-Est, qui a été même un énorme sujet politique de comment les politiques américaines arrivent à aider ces populations. Et en effet, durant les deux premières semaines dans les médias, on a vu énormément, enfin on a vu que ça d'ailleurs comme couverture en fait, des pillages de magasins, des gens qui s'entretuent presque, je veux dire, pour la ressource qui reste. Et ça a été un grand moment de pardon, entre guillemets, de la presse américaine, c'est-à-dire que dans les mois qui suivirent, ça fait 1h10 que je parle, eh bien, ils ont dû reconnaître que toutes ces histoires qu'ils ont racontées étaient non sourcées, en fait, étaient les sources auxquelles, en fait, ils n'ont jamais retrouvé ces histoires de pillage, ils n'ont jamais retrouvé de sources sûres, et au contraire, en effet, ils ont dû montrer tous les cas d'entraide qu'il y a eu entre ces gens qui étaient bloqués sur leur toit ou qui étaient bloqués sans nourriture au dernier étage de leur maison.
Bonjour. Quand vous parliez tout à l'heure des plus d'individus dans un groupe, surtout au niveau des oiseaux et des harengs, il était plus facile de voir un prédateur. Mais des fois, on voit au dernier moment les espèces se séparer ou s'éloigner du prédateur. C'est pas plutôt un effet de dilution qui fait que le prédateur a plus de mal à repérer plutôt la proie ?
Si, tout à fait. Il y a aussi effet de dilution. Mais par exemple, il y a des petits histogrammes que je vous montrais qui étaient faits avec des pigeons. Et qui montrait qu'en fait, selon la taille du groupe de pigeons, eh bien, les oiseaux s'envolaient plus loin du prédateur que s'ils étaient, par exemple, si le groupe est constitué de 50 individus, ils s'envolent à 20 mètres, alors que s'ils sont constitués de 5 individus en moyenne, ils vont s'envoler à 3 mètres, par exemple, du prédateur.
Excusez-moi, toute la conférence, on a parlé du darwinisme comme étant la compétition entre les espèces. Mais je crois bien me souvenir, moi, que Darwin s'est battu toute la fin de sa vie contre cette vision-là, en disant que la majorité du système qui régisse la nature, c'est justement la symbiose, le commensalisme, la coopération, et que la compétition entre les espèces, c'est 5% seulement de l'ensemble de ce qui régit la nature. Et je me souviens aussi que, comme exemple, on a par exemple les lémings qui, quand ils deviennent trop nombreux, organisent un suicide collectif. Quand justement, ils n'ont plus assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Enfin, il y a différentes en fait exemples dans la nature qui montrent que la compétition c'est très peu en réalité.
Alors je me lancerai pas dans un chiffrage des interactions, savoir est-ce qu'il y a plus d'interactions compétitives ou d'interactions pacifiques ou d'interactions d'entraide. Par contre je suis certain que malheureusement, je veux pas toucher vos espoirs, mais Darwin a un peu parlé d'entraide, c'est vrai, dans Descent of Man, dans 5 ou 6 passages. Mais, et lui ne parlait pas de sélection des plus forts, il parlait de sélection des plus aptes. Mais non, Darwin n'a pas consacré beaucoup de sa recherche à parler de coopération. C'est pas du tout un champ très exploré par Darwin. Et peut-être que quelqu'un peut répondre dans la salle, ça je sais pas. Mais je sais que l'histoire des lemmings, je crois que c'est c'est ça a été démonté. Enfin, que je veux dire, ça fonctionne pas du tout comme.
Je crois que c'est Jean-Marie Pelt du coup qui a fait.
Jean-Marie Pelt qui parle des Lemmings.
Non, mais il a parlé beaucoup de coopération, de commensalisme, de symbiose, et c'est lui qui cite des passages de effectivement de Darwin.
C'est pas Kropotkin, donc c'est Darwin qui cite. Parce que peut-être que le truc, c'est que Pelt, il est bien malin. Il a fait deux livres sur le comportement animal. Il en a fait, enfin, les deux majeurs. Il y en a un qui s'appelle La loi de la jungle et qui est sur les interactions agressives entre espèces. Et il y en a un autre dont j'ai oublié le titre et qui parle en effet des interactions de coopération. Mais allez-y, parce que.
Darwin, mais moi je vois ça avec mon regard sciences sociales et économie. Ce qui me gêne un peu, c'est cette façon d'opposer compétition et entraide. Pour moi, il n'y a pas opposition entre les deux. On peut très bien imaginer qu'il y ait de la compétition entre les individus pour faire progresser l'espèce et pour que dans la grande compétition, je dirais en fait, c'est l'espèce face au reste. Mais en fait, on peut très bien imaginer qu'il y ait une compétition qui soit en fait une compétition pour avancer ensemble. Tout à l'heure, il y avait la référence à Adam Smith, la loi du marché. La loi du marché, Adam Smith, il n'est pas là pour que les individus se détruisent les uns les autres. C'est une compétition pour avoir plus d'efficacité dans la production et dans la répartition sous des ressources. Enfin, le titre le bouquin d'Adam Smith dans lequel il fait ça, c'est la recherche de la source des richesses. Et il dit c'est à travers la spécialisation des tâches. Mais si on se spécialise, il va falloir faire des échanges. Et si on veut faire des échanges, il faut les faire de façon efficace. D'où la loi du marché. Donc ça, alors après, ça peut fonctionner de façon plus ou moins efficace, ça c'est sûr. Mais je crois que l'idée d'opposer nécessairement compétition et puis entraide, pour moi, c'est pas nécessairement antinomique.
Alors, déjà, par exemple, si on se fie aux deux Wilson, ce n'est pas antinomique, parce que la question est qu'il existe une compétition entre des groupes. Donc, ils expliquent que c'est les groupes altruistes qui vont être sélectionnés face aux groupes moins altruistes ou plus égoïstes. Après, la sélection au niveau de l'espèce, ça, c'est abandonné depuis longtemps. Mais oui, c'est sûr qu'en fait, il n'y a pas d'opposition claire et nette entre coopération et compétition. Moi, d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce que j'ai essayé de montrer. J'ai bien mis un « et ». C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre qu'il existe plusieurs modes d'interaction entre les espèces. Et que c'est juste que, comme j'ai essayé de la démontrer au tout début de la conférence, que notre vision traditionnelle de la nature, elle, ne voit que des rapports de compétition. Mais, et enfin, j'allais dire un autre truc que j'ai oublié. C'est pas grave, désolé. Mais oui, non, il n'y a pas d'opposition fondamentale. Et puis en plus, un évolutionniste soit choisira les gènes ou l'individu comme étant un être qui doit survivre et transmettre son patrimoine génétique. Donc de toute manière, on peut, si on veut, tout réduire à l'échelle de la compétition. On peut arriver à tordre tous les discours évolutionnistes pour en faire quelque part de la compétition. Et c'est pas faux, en fait. La question, c'est plutôt... Ok, pour arriver à survivre au grand jeu de la sélection naturelle, est-ce qu'il n'existe qu'un seul mode? Et comme je vous ai donné la définition au début de la loi de la jungle, c'est-à-dire le primat de la force brute et de la solution individuelle. En fait, la question est surtout là. Bien sûr qu'on peut, et c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer, survivre dans ce grand jeu de la sélection naturelle en étant un collectif plus ou moins lâche, plus ou moins intense en termes de coopération ou d'entraide. Mais in fine, oui, si on veut, on peut toujours de façon réduire tout à une forme de compétition. C'est évident. Enfin, d'un point de vue de la sélection naturelle.
Merci.
On peut noter quand même que les espèces qui vont avoir le plus grand succès écologique, souvent en termes de nombre d'individus, pour la plupart, sont des espèces eusociales, donc pour lesquelles il y a des formes d'altruisme qui existent entre elles. Et justement, une des failles de la théorie de l'évolution de Darwin, c'est qu'il n'arrivait pas à comprendre ces comportements altruistes chez les insectes sociaux. Pourquoi est-ce que des sociétés ou des individus se sacrifient pour le groupe en ne se reproduisant pas ou se tuent, arrivent à être maintenus sur le plan évolutif? C'est ça, il n'arrivait pas à y répondre. Et il n'avait pas les outils de biologie moléculaire qu'on a maintenant.
Oui, merci beaucoup. Il disait que c'était en effet un des plus grands défis à sa théorie. Et je ne sais pas si les chiffres sont bons, parce que c'est 20 à 30% de la biomasse, par exemple, en forêt tropicale, qui sont des fourmis, quelque chose comme ça. Les deux tiers. Ouais, donc, les deux tiers. Ah oui, j'avais un truc comme un tiers, mais ok. Donc la biomasse, hein, c'est si on prend tous les animaux et qu'on les pèse. On imagine, on fait un exercice de pensée, on pèse tous les animaux dans un endroit. Et donc, en effet, les fourmis représentent la majorité des individus, en plus dans les endroits les plus abondants comme les forêts tropicales. Donc en effet, c'est une solution, en tout cas c'est une innovation qui est un grand succès à l'échelle de la biodiversité.
Alors, j'ai été fasciné de voir que dans un même groupe phylogénétique, on pouvait retrouver chez quasiment toutes les espèces, comme tu l'as montré pour les canidés et pour d'autres, des comportements identiques, qui impliquent qu'ils soient sans doute hérités de leur ancêtre commun à tous. Alors, je ne suis absolument pas au fait des découvertes là-dessus, mais qu'en est-il de notre connaissance de l'héritabilité des comportements ? Est-ce que c'est vraiment de l'apprentissage, là, chez les mammifères, on sait que ça se fait, ou est-ce qu'il y a d'autres processus sous-jacents qui commencent à être perçus ? Est-ce qu'on en est toujours à transmission par apprentissage, ou il y a d'autres choses ?
Mais si un spécialiste dans la salle peut répondre, ça serait avec plaisir. Moi, je suis incapable.
Ma question, c'était, est-ce qu'on au niveau de la connaissance de l'héritabilité des comportements ? Parce que là, on voit qu'au sein d'un même groupe phylogénétique, on a tous les mêmes comportements. Est-ce que c'est uniquement de la transmission par apprentissage ? Alors, chez les mammifères, ça paraît assez simple à faire mettre en place. Ou est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui commencent à être vus ? Est-ce qu'il y a de l'épigénétique ? Est-ce qu'il y aurait des choses comme ça ? Je sais qu'en épigénétique, par exemple, on a pu voir, par exemple, qu'il y avait des souris qui pouvaient transmettre à leur descendance des comportements appris. Des traumatismes qui peuvent se retrouver sur plusieurs générations. Et donc, voilà, je ne sais pas si tu avais regardé ce genre de choses.
Non, j'avoue, je n'ai pas regardé l'origine du Playboy, enfin, comment il est sélectionné et transmis.
Ouais, mais c'est, enfin, en tout cas, c'est assez fascinant.
C'est Marc Bekoff, si ça t'intéresse.
Ok, merci.
D'autres questions ? Bon, écoutez, merci beaucoup pour vos questions. Merci encore à Corentin Gibert pour sa passionnante conférence qui est très large, qui me permet de traiter de beaucoup de thèmes sur différents aspects. Bonne fin de soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.